Bonsoir et bienvenue à l'espace musique et documents parlés de la bibliothèque. Je dis documents parlés, c'est ce qu'on appelle plus communément les livres audio dont il va être question ce soir, nos livres audio. On en a 2000 environ à la bibliothèque et vous les trouvez dans nos bacs qui se trouvent juste là, du côté de la porte orange. Une soirée en avant-première presque du festival Effraction. Et pour laquelle je remercie Blandine Forêt et les équipes du festival qui ont permis qu'elle se tienne. Je remercie à la régie derrière vous Alexandre Kerak et Renaud Guis. Je remercie nos invités, Laure Saget, Christophe Rioux, Anthony Passeron, et je remercie Sonia Deschamps d'avoir accepté d'animer cette rencontre. Donc sans plus tarder, je lui laisse la parole pour une petite heure trente, on va dire. Merci. Et donc, les enfants endormis, à lire à la bibliothèque, à écouter à la bibliothèque, désormais. Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup, Xavier. Bonsoir à toutes et à tous. Et j'ai le grand plaisir d'être accompagnée donc, ce soir pour parler du développement du livre audio d'Anthony Passeron, donc, qui est l'auteur du roman Les enfants endormis, publié aux éditions Globe et disponible en livre audio chez Audiolib. C'est l'extrait que nous avons entendu il y a quelques instants. Christophe Rioux, universitaire, journaliste et écrivain, parmi bien d'autres casquettes que nous allons évoquer tout au long de cette rencontre. Et Laure Saget, directrice générale d'Audiolib et présidente de la commission Livre Audio du syndicat national de l'édition. Merci d'être avec nous ce soir. Anthony, on a entendu un court extrait des Enfants endormis, le livre audio. Quelle émotion est-ce que c'est d'entendre son texte lu par Loïc Corberie en l'occurrence?
Bonsoir. Oui, c'est bon. Ah oui, pardon. Bonsoir, merci infiniment. Ça participe de... C'est-à-dire que je n'avais pas prévu d'avoir un jour un livre publié. Et donc, depuis ce jour-là, je suis dans une sorte de quatrième dimension. Et c'est vrai que ça ajoute une dimension supplémentaire parce que je n'avais jamais non plus prévu d'avoir un texte qui soit lu et disponible en audio-lecture. Donc, ça participe de quelque chose comme ça, de prolonger quelque chose qui n'était déjà pas envisageable, en fait. La seule chose qui me satisfaisait, enfin il y en avait beaucoup qui me satisfaisaient, mais je veux dire que c'est plus l'ancien enseignant qui a beaucoup utilisé l'audio-lecture parce que ça rendait la lecture accessible à davantage de mes élèves, commencer le cours par un extrait à la fois sur papier et en audio. Déjà que mes élèves ne m'écoutaient pas moi, mais il y avait un miracle qui se produisait, c'est quand je mettais play, ils se taisaient en fait. Et sans doute parce qu'il y avait des comédiens qui lisaient sans doute mieux que moi, je savais que ça existait, je m'en servais beaucoup en tant qu'enseignant et j'étais vraiment satisfait de savoir que les enfants endormis allaient trouver un public supplémentaire, notamment parmi les personnes empêchées de lire, mais aussi toutes les personnes qui ne sont pas empêchées, mais qui préfèrent écouter un livre que de le lire.
Est-ce que vous pouvez nous raconter très rapidement comment est-ce que ça s'est passé? Juste avant la rencontre, vous nous disiez qu'on vous avait fait entendre la voix du comédien, c'est-à-dire que on a sollicité votre avis concernant le choix de la voix.
Oui, absolument, je me rappelle, j'étais dans un train un jour de grève entre Manosque et Aix-en-Provence et j'avais raté un arrêt et je me rappelle que j'étais un peu bloqué et j'ai eu un mail de mon éditrice me disant qu'on allait être adapté chez Audiolib et il fallait que je me décide sur le comédien qui allait lire le texte. Alors, il se trouve que voilà, toujours dans cette idée de sidération, de ne pas être capable d'avoir jamais anticipé les choses, je me sentais bien incapable en plus de choisir, d'avoir un avis sur le comédien qui devait lire ou pas lire. Je me rappelle qu'il y avait une pièce jointe avec un extrait d'un roman de Sylvain Tesson qui est un auteur dans lequel je ne me reconnais pas, il ne fait pas partie de mes auteurs, des auteurs que je lis en fait. Et déjà ça m'a donné un premier a priori négatif dans le sens où je me disais mais c'est pas le genre de lecture que j'ai moi-même et est-ce que ce comédien qui lit du Tesson je vais l'apprécier suffisamment. Et en fait c'était le meilleur exercice parce que du coup sa voix m'a vraiment convaincu très vite et je me suis dit non mais sa voix elle est vraiment bien et j'aurais été peut-être plus séduit par exemple par un auteur comme Édouard Louis que je lis assidûment depuis des années en me disant ça serait la même voix que celui qui lit Édouard Louis, donc il y aurait une coquetterie supplémentaire à dire et je connaissais pas Loïc Corberie parce que j'étais assez loin de tout ce qu'il faisait, etc., depuis que j'ai découvert son travail. Et là, quand je l'écoute encore maintenant, je me dis que vraiment, c'était cette voix-là que je voulais. J'en aurais pas imaginé une autre. Mais ça s'est fait très rapidement, parce que c'est juste que j'ai un peu un problème. J'aime pas laisser un mail non traité dans ma boîte mail. Et donc, je dis, si je dis oui en plus maintenant, au moins, c'est plié. Eux, ils vont pouvoir travailler et on y va.
Classer le mail.
Voilà, exactement.
On va parler de ce rapport aux voix, qui est un rapport extrêmement intime. Mais peut-être, Laure, Christophe, alors on va entrer tout au long de cette rencontre dans le détail de ce qui fait un bon livre audio. Il y a le choix de la voix, mais il y a aussi des questions techniques, il y a des questions de choix de texte. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Mais très spontanément, qu'est-ce qui vous vient en tête si je vous demande c'est quoi un bon livre audio ?
Tu veux que je commence ? Ben, c'est d'abord un bon livre. Franchement, il faut rester très modeste. S'il n'y a pas le texte, il n'y a rien. Et après, il y a des livres qui peuvent être particulièrement sublimés par l'audio. Moi, je peux vous citer un exemple très récent d'un bouquin qui est déjà très chouette.
Je croyais que vous alliez dire d'un bouquin qui était bof, mais
Non, qui était déjà très, très bien. Et c'est Tata de Valérie Perrin. Ce qui est intéressant quand on a lu ce livre et on a eu des cris de joie dans l'équipe, puisqu'en fait, une partie de la narration vient à travers des cassettes audio que la personnage principale retrouve de sa tante, qui va lui expliquer tous les secrets de famille qu'elle ne connaissait pas à travers ces cassettes audio. Et donc pour nous, c'est un bonheur absolu, puisqu'on peut jouer sur deux voix. Et donc là, on avait deux comédiennes qui faisaient la narratrice principale et puis les cassettes audio. Et surtout, on pouvait rendre le timbre des vieilles cassettes audio et faire cette différenciation. Et donc là, c'est absolument magnifique. Ça, c'est un petit cadeau qu'elle nous a fait. Et puis, l'autre cas, moi, je trouve où... Mais ça, c'est vraiment des coups de chance énormes. C'est quand l'auteur, déjà, est doué à l'écriture, mais aussi doué à la lecture. Et l'exemple, c'est Gaël Faye, qui est donc chanteur et qui a du coup la scansion de sa musique, et qui a lu lui-même Jacaranda, qui n'est pas totalement autobiographique, mais un petit peu autobiographique. Voilà, donc il y a des textes qui peuvent être sublimés par la lecture audio. Et on en parlait tout à l'heure avec Anthony pour son livre. Moi, quand je l'ai découvert, puisque c'est pas un livre que j'ai publié moi, je suis arrivée après chez Audiolib, mais du coup j'étais très heureuse de le découvrir. Il y a deux parties, il y a des chapitres différents qui se répondent, et le choix d'avoir pris un comédien unique pour faire les deux, ben, j'ai trouvé ça assez audacieux, en fait, parce que moi, j'aurais eu le réflexe de faire deux voix différentes sur la partie autobiographique et puis une autre voix sur la partie
plus documentaire,
historique et documentaire. Mais j'ai trouvé que là, du coup, Loïc Corbery pouvait déployer tout son talent et que c'était extrêmement réussi. Et l'audio permet de mettre en place ces contrastes qui sont déjà en place dans le texte.
Christophe, vous faites partie du jury du Grand Prix du livre audio. Qu'est-ce qu'un bon livre audio ? Qu'est-ce qu'on juge ?
Alors ça, c'est une grande question. voilà, une annonce. voilà. Bon, je... voilà ma réponse.
Comme ça, on attend d'autant plus la réponse.
Pensez aux gars. Les inscriptions ont lieu dès maintenant au bureau droit, économie, technique, au niveau 3 de la bibliothèque. Il reste deux créneaux possibles, un à 20h30 et un à 21h.
Merci. Pile voilà. À la fin de la rencontre, vous pourrez donc vous y rendre immédiatement.
Ça m'a laissé le temps de répondre à votre question, c'est l'avantage, cet interlude. Je ne cesse de me poser la question à plusieurs titres. D'abord, vous l'avez évoqué avec ce Grand Prix du Livre Audio qui est remis chaque année au Centre National du Livre. Et c'est important que ce soit là, dans ce lieu dédié à la littérature, au livre, à la lecture. Et on a un jury qui réfléchit beaucoup justement à ce que c'est qu'un bon livre audio, parce qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Parfois, on a tendance à surinvestir la dimension d'interprétation qui est nécessaire. On vient de l'évoquer, le comédien ou la comédienne. Mais en réalité, c'est l'interaction avec le texte préexistant qui joue un rôle déterminant. Moi, j'ai la conviction qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Ce qui n'est pas le cas de tous les membres du jury, qui parfois n'ont pas ce retour sur le texte initial qui me semble pour moi essentiel. Je crois que le livre audio, c'est l'autre voix du texte. L'autre voix du texte, Daniel Mesguich le disait assez poétiquement auparavant, il disait « le livre audio, c'est la voix dans l'encrier ». Y a quelque chose de cet ordre-là, même si on est à l'époque de l'intelligence artificielle et que les encriers ont du souci à se faire. Et je pense que clairement, cette autre voix du texte, c'est le fait que le livre audio, c'est aussi un texte augmenté. C'est un livre augmenté, c'est une création différente. Et il ne faut pas l'oublier, là aussi on l'a évoqué, c'est un accompagnement sonore, c'est un accompagnement éventuellement musical, c'est aussi parfois un déploiement. Moi je pense souvent au pop-up. Moi un livre audio ça me fait penser à un pop-up. Hein, à la différence de la lecture intériorisée et du livre qu'on lit en silence, le livre audio déploie une dimension ou des dimensions qu'on a peut-être parfois un peu sous-estimées. Donc pour moi, le livre audio, j'en ai une image très, très forte et je dois, tous les mois, j'écris pour Lire, le magazine Lire, je dois sélectionner 3 livres audio. Eh bien, j'ai du mal, j'ai une difficulté face à cette infini des possibles et je suis à chaque fois encore vraiment surpris par par ces bons livres audio justement que l'on découvre avec toutes ces dimensions à la fois musicales, cette dimension d'interprétation de la voix de la comédienne ou du comédien et toute cette logique. Et pour moi le livre audio c'est un peu une sorte d'œuvre d'art absolue, totale.
Laure nous donnait l'exemple de livres qui étaient déjà des très bons livres et qui étaient sublimés par le livre audio. A contrario, est-ce que, enfin, je connais déjà la réponse, mais est-ce qu'un bon livre fait forcément un bon livre audio ? Est-ce qu'il arrive qu'un livre qu'on a adoré, on se retrouve confronté à la difficulté et à se dire que justement, ce ne serait finalement pas lui rendre justice ou qu'en tout cas, c'était trop complexe à mettre en son pour que ce soit vraiment à la hauteur du livre original ?
Ça, c'est le travail de l'éditeur, hein, de recomposition parfois qui est nécessaire pour le passage à l'audio. Et effectivement, on se fait des nœuds au cerveau très souvent sur des questions de rapidité dans les dialogues, par exemple. Il y a des choses qui sont très risquées. Moi, je me souviens de Philip Roth, la trilogie américaine, où il y a des dialogues hyper rapides. J'avais très, très peur en l'écoutant. Ouais. Mais Pierre-François Garrel, le comédien, est tellement doué qu'à la première, au premier mot de chaque dialogue, on sait qui parle. Donc non, je n'ai pas eu d'expérience douloureuse là-dessus. Contrairement aux adaptations audiovisuelles, on a tous des livres qu'on a adorés, on les a vus en film et ça a été un drame, quoi. Donc vous n'avez pas du tout cet effet-là dans le livre audio, tout simplement parce que l'imagination est en place, c'est-à-dire qu'elle est libre, elle est ouverte. Et d'ailleurs, toutes les études montrent que c'est les mêmes zones du cerveau qui sont activées quand on écoute un livre audio que quand on lit un livre en silence. Ce que je trouve intéressant, moi, souvent aussi, c'est le fait que le livre audio peut rendre plus intelligible un texte difficile. Typiquement, je pense à Yuval Noah Harari, à Sapiens ou à Nexus, qui sont des textes complexes. Le travail d'intelligibilité du comédien, qui lui a bossé avant et a remis du sens, rend le texte quand même, je pense, plus facile à écouter, oui, qu'à lire en silence. Il fait ce travail d'intermédiation, d'éclairage, le simple rythme de la voix. Et d'ailleurs, quand le comédien ne comprend pas le texte, ça s'entend aussi. Et ça fait peur parfois. Mais oui, ça permet vraiment de rendre intelligible des choses qui ne sont pas forcément accessibles à la lecture silencieuse. Et puis, le dernier aspect que moi, je trouve absolument magnifique, c'est la mise en valeur de la poésie dans un texte. Je me souviens d'avoir d'abord lu Le Lambeau de Philippe Lançon et ensuite de l'avoir écouté lu par Denis Podalydès. Et là, toute la puissance poétique du texte est vraiment apparue. Alors que moi, en première lecture, j'avais pas saisi la poésie de son écriture. Et tous les passages que j'avais trouvés un peu longs sur les descriptions, ouais, de tableaux et de choses comme ça, elles sont passées, mais alors... comme une lettre à la poste, et j'ai vraiment perçu une autre dimension de son écriture.
Christophe, tous les romans sont a priori adaptables ?
Alors, A priori, oui. Enfin, on a un infini des possibles, mais il est clair que bon, on peut se poser la question. Par exemple, sur certaines formes littéraires, je pense au nouveau roman, où on a des constructions complexes. Et d'ailleurs, Claude Simon lui-même, prix Nobel de littérature en 1985, qui avait eu cette formule avec un titre, la bataille de Farsal, qui est en fait la bataille de la phrase. Alors quand on postule comme ça, quand on part d'un point de départ qui est que le nouveau roman dynamite finalement le récit classique et opère cette bataille de la phrase, évidemment, ça n'est pas simple. Lire La route des Flandres de Claude Simon, ça peut déjà être assez complexe, comme un certain nombre d'auteurs du nouveau roman, et la question de effectivement de l'adaptation, du passage au livre audio. A priori, certains comédiens sont capables de tout faire. Vous le savez peut-être, il existe par exemple une version audio du Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. Il existe une version audio du Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty.
Alors d'heures.
Beaucoup d'heures, parce que
beaucoup
le livre...
Il est là.
mais là, si on sort un instant du roman et qu'on parle de l'essai ou de textes de sciences sociales, sciences humaines, parfois ardues, de textes philosophiques, on a effectivement des comédiens qui sont capables d'aborder, alors déjà parfois sur scène, mais qui le font aussi en version audio. Donc a priori, rien n'est impossible avec des comédiens, des comédiennes, avec une capacité, c'est vrai aussi, à avoir un habillage sonore convaincant. Ça replace l'oralité au centre. Et ce qui est très intéressant pour le roman et pour la littérature, mais aussi pour les sciences sociales, qui d'ailleurs de plus en plus empruntent un chemin romanesque parfois, ou en tout cas, d'ailleurs Anthony le sait bien, un entrelacement entre ces différentes dimensions, eh bien, voilà, il y a peut-être cette possibilité d'explorer ces passerelles, mais il est clair que ce qui est déterminant, c'est l'épreuve de la voix, l'épreuve du gueuloir à la Flaubert, c'est-à-dire qu'un texte dit, proféré, ça ne supporte pas la médiocrité. Et la difficulté est là, c'est que pour certains textes, c'est peut-être plus difficile que pour d'autres.
Anthony, qu'est-ce que vous avez le sentiment que le livre audio, l'écoute du livre audio apporte de différent peut-être par rapport à la lecture ? On l'a entendu, on est dans un récit quand même qui est intime. C'est quelque chose de d'un seul coup avoir une voix sur cette voix que chacun en tant que lectrice, lecteur, on se fait nous-mêmes. J'imagine qu'il y a quelque chose de très... un rapport très, très intime à ça. Qu'est-ce que vous avez le sentiment que le livre audio apporte à ce récit ?
En l'occurrence, Les enfants endormis, j'ai écrit ce que j'étais incapable de dire, en fait. Donc, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que tout d'un coup, quelqu'un dit, je vais le dire maintenant. Donc, c'est très
maintenant
ennuyeux, au sens strict du terme. Et ça lui donne, voilà, comme on disait tout à l'heure, une dimension supplémentaire. Mais vraiment, c'est un exercice heureux de dépossession. C'est-à-dire que le but, c'est il y a peut-être des contre-exemples, mais on parlait avec Laure tout à l'heure de Maria Larrea et de Polina Panasenko, qui ont toutes les deux lu leur propre texte, mais pour chacune d'entre elles, Polina parce qu'elle est comédienne, mais il y avait toujours les deux ont quand même une histoire identitaire au niveau de l'accent, de la langue très forte, et sans doute ont-elles eu le courage de le faire, c'est aussi un travail assez costaud à faire, et parfois ça se justifie, et en l'occurrence pour Les enfants endormis, j'avais aussi à cœur que ce texte, si intime soit-il, aille percuter d'autres intimités, donc il y a quand même une propension à être le plus généralisé possible. Donc c'était bien aussi que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne en charge la voix, et en même temps qui me ramène à mon travail d'écriture, parce que quand j'étais avant cette publication, souvent dans mon travail j'écris sur mon ordinateur, et pour savoir si c'est bon, enfin, si ça me semble suffisamment bon, si je dois faire le choix entre deux formules narratives, il n'y a que la voix qui arrive à départager les deux. Donc finalement, c'est pas, elle est quand même présente là, dans la genèse de l'exercice. Et ceux qui écrivent se relisent à haute voix souvent. Et j'ai même un ami éditeur qui s'appelle Clément Ribbe, qui a déjà, alors il ne le fait pas systématiquement parce que c'est très long, etc. Mais il a déjà aidé une camarade en lui disant, mais ton livre, on va, avant de le publier, on va le lire en entier à haute voix, en fait. Et on va très vite savoir savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut enlever, etc. Donc c'est aussi un juste retour des choses, c'est un prolongement, l'audiolecture, mais qui est quand même, vous le disiez très bien, un outil qui est déjà à l'origine de celui qui écrit, souvent en tout cas, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais qu'on a tous un rapport à la voix, etc. Et pour ma part, pour revenir sur des expériences très fortes, je me rappelle, pendant longtemps, j'ai enseigné en lycée professionnel L'étranger de Camus. Et parfois, je voyais chez mes élèves que ça marchait pas. Et on se remet tous en question en disant, qu'est-ce que j'ai pas... Et un jour, j'ai trouvé la version audio lue par Michael Lansdale. Bon, bah là, voilà, je veux dire, il y a quand même, voilà, c'est pas enlevé du génie de Camus, c'est juste qu'il apporte encore un truc en plus qui fait qu'il y a des jeunes ados, aussi bien à Marseille qu'à Villepinte, ça percute tout de suite. Et c'est aussi ça qu'apporte l'audiolecture et cette espèce d'addition des talents qui fait que quelque chose de supplémentaire est possible.
Et puis je parlais d'intimité, il y a quand même quelque chose d'entendre quelqu'un nous raconter une histoire, en fait. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement puissant, rien que de ce fait-là.
Ouais, c'est l'intimité des histoires que nos parents nous lisent. Hein. Et en plus, alors, ce qu'on constate, c'est quand même l'écoute se fait de plus en plus au casque. Et donc là, vous êtes vraiment dans quelqu'un qui vous susurre à l'oreille. Et effectivement, ça va direct aux émotions. Hein. Ça peut pleurer très, 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 très facilement. C'est clair. Mais moi, j'ai vu des auteurs aussi lire leurs propres livres et découvrir qu'il y a des trucs qui n'allaient pas. Donc ça peut être une expérience douloureuse. Mais il est trop tard, puisque on ne lit que la version qui va être publiée. Mais je pense que ça leur sert pour le livre d'après, en général. Mais c'est une expérience assez violente pour un auteur. Après, il y a aussi des auteurs qui s'auto-kiffent. Et pour qui c'est un vrai moment de bonheur de se lire eux-mêmes. Donc c'est assez... moi j'adore... ça dit beaucoup de choses du rapport de chaque auteur à son texte quand il le lit lui-même ou quand il l'entend lu par ailleurs.
Mais c'est pas... Tout le monde n'est pas... Enfin, Anthony citait deux exemples d'autrices qui ont aussi une expérience de la scène ou en tout cas de lecture. C'est quand même quelque chose, moi je trouve qu'il y a un exercice de la même façon que les lectures qui peuvent avoir lieu dans différents lieux, dans des festivals comme Effraction ou ailleurs, où on n'est pas dans du jeu pur parce qu'il faut justement avoir de la retenue. En même temps, ce n'est pas de la simple, avec beaucoup de guillemets, lecture. Et est-ce que c'est arrivé, je ne vais pas vous demander de nom, mais justement des autrices ou des auteurs qui se sentent capables de lire leur texte et qui rapidement s'aperçoivent, ou bien vous apercevez que en fait c'est pas possible en...
C'est arrivé. Ouais. C'est arrivé, mais ce que vous dites sur le fait de ne pas surinterpréter, c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, il faut interpréter sans surinterpréter, tout en étant au service du texte. Ne pas trop interpréter les dialogues, ne pas en faire quelque chose de ridicule. Et moi, j'ai vu des acteurs de théâtre, notamment, qui sont habitués à porter la voix, qui sont habitués à y aller, quoi. Et c'était une douleur pour eux de se restreindre. Donc, c'est un travail hyper particulier. Et c'est pour ça que dans les comédiens avec qui on travaille, nous, pour les lectures de livres audio, il y a autant des comédiens de doublage qui ont du coup une approche particulière, parce qu'ils ont ces voix très caractérisées. Et pour eux, c'est un peu les vacances, hein, de se retrouver à lire un texte de littérature. Mais en même temps, ils ont des réflexes de doubleur. Il y a les acteurs de théâtre qui, effectivement, doivent du coup changer de tonalité. Et puis, les acteurs de cinéma, où là, c'est coup de bol. Parce qu'en fait, ils n'ont pas cette habitude de travail sur le texte. Et où c'est des fans de littérature et ils s'adaptent, ou alors on peut avoir des surprises, effectivement.
J'aimerais qu'on retourne du côté du public. Anthony disait que de voir son livre publié en livre audio, c'était la possibilité d'un seul coup de toucher aussi d'autres personnes. Est-ce que, Laure, vous pouvez peut-être nous faire un petit état des lieux de qui écoute des livres audio aujourd'hui? Comment est-ce que ça évolue en France? Nous faire un petit état des lieux.
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sorti de la niche. Ce que j'appelais les routiers intello, ou les personnes malvoyantes. Puisque aujourd'hui, tout le monde écoute des livres audio. Les dernières études disent qu'une personne sur trois à écouter un livre audio dans les 12 derniers mois. Donc ça veut dire que quand même c'est un usage qui se démocratise. Alors il se démocratise pourquoi ? Grâce aux abonnements numériques, hein, puisqu'en fait on a tous dans nos téléphones des oreillettes et des abonnements. Et donc le fait que les abonnements numériques soient arrivés depuis à peu près 2018 et soient déployés a vraiment permis de démocratiser le livre audio. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes écoutent de plus en plus de livres audio, puisqu'on sait qu'ils ne lisent plus maintenant. Hein. On sait que les garçons, à partir de 18 ans, c'est fini. C'est simple. Et pourtant, ils écoutent des livres audio. Donc ça veut dire que pour moi, le livre audio est un moyen de revenir à la littérature d'une manière plus douce, même si les études montrent que les garçons écoutent plutôt de la non-fiction au début. Ou de la fantaisie ou des choses comme ça, et qu'ensuite, petit à petit, ils arrivent à la littérature de la même manière que les filles qui écoutent de la romance, dont on a très très peur qu'elles n'écoutent que de la romance, n'écoutent pas que de la romance. Donc ça, c'est aussi l'autre bonne nouvelle, c'est qu'elles écoutent en fait d'autres types de littérature. Je dis ça parce qu'il y a un grand sujet dans l'édition aujourd'hui autour de ce phénomène de la romance qui enthousiasme tout le monde et en même temps fait peur à tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est les gens qui écoutent des livres audio de romance, ils écoutent des livres audio de plein d'autres genres de littérature. Donc ça se rajeunit, ça se démocratise. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent des livres audio. On est dans un marché qui progresse à peu près de 10% par an depuis 2018. Donc c'est quand même assez réjouissant. Les abonnements se diversifient puisque... aujourd'hui, si vous vous abonnez, vous pouvez ou acheter un livre audio par mois en le téléchargeant. Et là, il y a un effet best-seller très fort.
C'est ce que j'allais demander. J'allais demander si c'était le cas, comme en littérature, ces écarts immenses entre les...
Ouais. Malheureusement, on a ça aussi, puisqu'en fait, les gens payent 10 euros par mois pour avoir un livre par mois. Donc, ils vont vouloir sécuriser leur achat. Ils vont aller plutôt vers des choses connues. Mais on a l'arrivée des abonnements Spotify, ou si vous avez un abonnement premium sur Spotify, vous avez 12 heures de livres audio que vous pouvez utiliser de manière complètement libre. C'est-à-dire que vous pouvez écouter un quart d'heure de littérature jeunesse, un quart d'heure d'un doc, un quart d'heure de... Et donc on a beaucoup d'espoir sur ce type d'offre qui permet aux gens de découvrir des choses différentes, d'essayer des choses différentes et de ne pas se focaliser sur un livre. Donc non, ça se déploie, ça se développe.
Christophe, vous faites cette observation, j'imagine, également de cette diversification, ce déploiement et la diversité des publics qui écoutent les livres audio ?
Oui, effectivement, il y a l'arrivée de nouveaux acteurs, on évoquait Spotify, les choses ont beaucoup bougé, c'est vrai qu'on était dans la niche avec un marché qui avait du mal à dépasser les 1 puis 2% du marché de l'édition. Après, effectivement, il y a une ouverture vers des non-lecteurs. C'est vrai que le livre audio peut représenter une alternative. Alors, il a parfois été négativement présenté comme une sorte de... pas de livre pour les nuls, mais presque. C'est-à-dire
marche-pied vers de la vraie...
Il y a eu un peu ce débat, d'ailleurs, qui est apparu à un moment, en se disant, voilà, écouter un livre, c'est pas vraiment le lire. Voilà. En réalité, on le voit, et quand on en parle avec des spécialistes des neurosciences, ils nous disent que, effectivement, les zones du cerveau sollicitées prouvent que c'est tout à fait faux de penser ça, et que, en réalité, le livre audio développe aussi un imaginaire extrêmement important. J'évoquais tout à l'heure l'autre voie du texte, mais il est clair que ce marché il est en train de se structurer. Et là, on monte, hein, on est quasiment à 3% à peu près. Hein, voilà, on arrive. On s'approche des 3%. Ça a l'air lilliputien, ça a l'air très lent. 1, 2, 3, mais ça monte avec des taux de croissance extrêmement importants.
Il y a combien de livres
en français? Il y a à peu près 20 000 livres audio disponibles aujourd'hui. Et il faut savoir qu'aux États-Unis et en Angleterre, la part du livre audio dans le marché, c'est entre 10 et 15%. Donc on a une énorme marge de progression.
Oui.
On est très contents. Et c'est vrai que l'offre, c'est une question d'offre aussi. C'est-à-dire que on ne sait pas par où il faut commencer. Est-ce qu'il faut augmenter l'offre pour que l'écoute se développe? Et là, on a des partenaires distributeurs qui sont des vrais partenaires sur le développement du catalogue, puisqu'on passe vraiment pour des arriérés, nous, Français, par rapport à tous les autres pays. Par exemple, en Scandinavie, c'est 25% du marché du livre, le livre audio. Et d'ailleurs, quand les éditeurs grand format sortent leurs livres, ils demandent à l'audio de ne pas sortir tout de suite pour espérer vendre quelques versions papier. On n'en est pas là en France, heureusement. Mais c'est vrai que le marché se développe. il y a une plus grande pression sur qui va avoir les droits. Donc ça veut dire que ça devient un sujet, c'est comme le poche en fait, c'est vraiment une seconde utilisation du livre qui existe.
Oui, il y a presque une géopolitique du livre audio à imaginer, parce qu'effectivement il y a des choses très étonnantes, il y a un paradigme pays du Nord par exemple, c'est vrai que l'Allemagne avec la tradition des Hörspiel fait qu'on on a un public assez captif. La Scandinavie est un cas aussi extrêmement intéressant, puisque je pense à la Suède spécifiquement, aux pays nordiques de manière plus générale, mais Spotify, il faut le rappeler, est un acteur suédois, des acteurs comme Storytel, donc on voit qu'il y a un paradigme presque suédois qui est assez intéressant à analyser. Et puis la question aussi de la géographie, de la taille aussi. Est-ce que ça ne joue pas aussi le fait, par exemple, dans le cas américain, qu'on ait des espaces extrêmement grands qui favoriseraient l'écoute de textes est-ce que ce gigantisme des territoires n'a pas aussi un impact? En tout cas, on a vu qu'un lien pouvait parfois être établi entre la mode du cruising, c'est-à-dire le fait d'errer pendant, pendant très longtemps dans des zones périurbaines, et éventuellement l'idée d'écouter alors des podcasts, toutes les formes de l'audio, pas forcément systématiquement du livre audio.
J'allais dire, est-ce que le développement du podcast aussi est allié au développement du livre audio, parce que ce sont des nouvelles habitudes d'écoute, c'est-à-dire que on avait l'habitude d'écouter la radio à des heures fixes. D'un seul coup, on découvre qu'on peut écouter des podcasts, des contenus qui sont totalement originaux, qui ne sont pas diffusés à la radio. Et ça nous amène vers du livre audio aussi.
Oui. Mais alors ça, c'est un vrai...
Je pense que complètement. Je pense qu'en fait, avant d'écouter des livres audio, parce que se lancer dans cette heure d'écoute, c'est pas rien. L'audio non musical peut commencer par le podcast. Et moi, j'ai commencé par le podcast. Et c'est ça qui m'a amené vers le... J'ai toujours été une fan de radio, mais... le podcast, c'est encore une autre forme intermédiaire. Après, le problème, c'est la gratuité. C'est-à-dire, comment lutter contre le catalogue de Radio France qui est infini, énorme, magnifique, d'une qualité exceptionnelle. On en parlait avec les gens de Radio France.
Et qui est adapté en livre. C'est-à-dire, c'est le schéma inverse. C'est-à-dire que ce sont les podcasts de Radio France qui, aujourd'hui, sont adaptés en livre.
Certains. Pas beaucoup, mais...
Non, pas beaucoup, mais je pense à Oli ou bien à tous les récits historiques de... Et je vais écorcher son nom là tout de suite. Mais oui, il y en a certains.
Bestioles, on en parlait chez... Voilà.
Et d'ailleurs, Radio France fait aussi ce qu'on appelle des dramatiques, donc des adaptations jouées et bruitées de livres qui existent aussi en livre audio. Quand j'étais avant chez Gallimard, ça nous arrivait tout le temps d'avoir... d'avoir sorti la version audio et que Radio France veuille faire une version qui s'appelle les dramatiques. Et donc, on essayait de ménager les uns et les autres avec des fenêtres de sortie. Mais c'est vrai que cette gratuité, elle est utile aussi parce qu'elle permet de découvrir. Moi, je pense que l'un n'en peut... Enfin, voilà, je pense qu'on se tient la main et qu'il y a la place pour... beaucoup de choses.
Oui, parce qu'on a souvent été dans l'opposition un peu factice entre format court, podcast, format long, livre audio. Il y a un mot qu'on n'a pas employé qui est quand même très important, c'est que le livre audio, c'est une forme de respect absolu du texte, puisque c'est homothétique. C'est-à-dire que c'est vraiment le texte tel qu'il est. Donc ça, c'est une dimension quand même importante. Le podcast peut parfois jouer avec le texte et puis pourrait, dans certains cas, être une forme de bande-annonce ou en tout cas, sur un format restreint, conduire au livre audio. On pourrait imaginer ce type de circulation. D'ailleurs, on le voit bien, le champ de la création sonore ne cesse de muter et ces frontières autrefois très très claires et établies entre fiction radiophonique, podcast, livre audio, vont être amenées, ils sont déjà parfois amenés à être dynamités.
Anthony, vous êtes un auditeur de podcast de...
Oui, ça m'arrive, mais ce que j'entends me fait penser à quelque chose, c'est que quand justement j'étais dans ce fameux train et qu'on nous a dit, enfin on m'a dit, en plus je suis primo-romancier,
pour des
raisons psychanalytiques, si je pose pas de questions, donc voilà. Donc c'est à dire que mon éditrice me dit, on a reçu une offre audiolib, c'est très bien. Et je me souviens que ma maison d'édition était vraiment en train de réfléchir, avait même fait appel à un professionnel pour négocier les droits d'adaptation audiovisuelle. On était en pourparlers avec les éditeurs, différents éditeurs de livres de poche qui étaient intéressés pour savoir déjà combien ils achetaient les droits, est-ce qu'ils s'engageaient à le publier pas trop vite parce que justement le livre marchait encore en grand format, etc. Et je suis très intéressé par ce que vous disiez tous les deux, parce qu'au moment où moi je signe chez Audiolib, je vois que, en tout cas dans ma maison d'édition, à qui je dois beaucoup par ailleurs, hein, je veux pas, mais on n'avait pas investi ce terrain-là comme un terrain intéressant. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas de questions où on parlait de est-ce qu'il doit sortir en même temps ou pas. D'ailleurs, je vois aujourd'hui que des livres sortent en même temps en audio et en papier, etc. Mais moi, j'ai vraiment ressenti qu'au moment où ma maison d'édition investissait pleinement la discussion de l'audiovisuel et du poche, il y avait aussi, peut-être que c'était aussi la confiance qu'ils avaient en Audiolib, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai pas vu que ça générait tant de choses, et je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans les prochaines années, justement, parce qu'on commence à voir, on en parlait, des éditeurs qui vont aussi prendre l'audiolecture en main, c'est-à-dire se dire, mais ce qu'ils font, est-ce qu'on est capable de le faire comme ils le font déjà pour le poche, avec cette réserve que vendre du poche, c'est pas comme vendre du grand format, et vendre de l'audio, c'est pas comme vendre du grand format non plus. Donc il y a toujours ce côté aventureux. Est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas, et je suis très curieux de tout ça.
Ouais, mais peut-être sur cette question des rapports différents que peuvent avoir les éditeurs au livre audio. Peut-être, je ne sais pas si vous avez... comment est-ce que vous observez ça, justement, peut-être dans ces achats de droits, de s'apercevoir que c'est très différent selon les maisons d'édition ou pas. Et comment est-ce que vous observez les maisons qui ont de plus en plus envie, en tout cas, j'ai le sentiment d'internaliser la création.
C'est vrai qu'on avait avant une espèce d'indifférence joyeuse, c'est-à-dire que les cessionnaires de droits découvraient petit à petit qu'il y avait des sessions audio possibles, mais ce n'était pas du tout dans leur champ de vraiment d'investigation et de mobilisation commerciale. Et c'est vrai que maintenant, ils se rendent compte que c'est un intérêt. Après, ça dépend des organisations, des groupes, des maisons d'édition. Chez Hachette, nous, Audiolib existe depuis plus d'une quinzaine d'années, et donc il y a cette habitude de dialogue entre les maisons grand format et Audiolib sur le passage en audio. On a aussi Albin Michel dans notre actionnariat, donc on a des rapports très privilégiés. Et donc ils ont ce réflexe-là, mais la plupart des maisons d'édition s'en moquaient totalement, pour rester très poli. Et c'est vrai qu'il n'y a que quelques grands groupes. Gallimard avait la chance d'avoir cette petite collection qui s'appelait Écouter Lire, qui était déjà là, qui s'était construite plutôt sur le livre audio enfant, puisqu'à l'origine, il y a eu aussi beaucoup de livres audio enfants. On a tous écouté les cassettes avec le livre, voilà. Et donc, Gallimard avait cette collection qu'il a accepté de développer un peu, puisque maintenant, ils font à peu près 100 titres par an, là où Audiolib fait 200-250 titres. Donc, ça s'est petit à petit développé. Et là, on sent qu'ils commencent à nous regarder avec un peu moins de mépris. mais effectivement, dans un monde qui est le monde de l'écrit, c'est quand même pas facile d'expliquer que ça n'est pas effectivement books for dummies, comme disent les en bon français. Mais pour reprendre ce que tu disais, Anthony, je trouverais vraiment intéressant tout à l'heure sur les livres audio dans l'enseignement. Notamment, on s'est aperçu que pour les enfants qui sont dyslexiques, le fait d'entendre le texte lu d'abord, ça désangoisse complètement la lecture, parce que le sens est déjà arrivé. Et c'est un moyen hyper intéressant de désangoisser tous les enfants qui sont angoissés par ce truc-là où les lettres dansent ou ne sont pas dans le bon sens. Et donc effectivement, ça, c'est vraiment une médiation. Et ça joue beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des prix collège, il y a des prix lycée de livres audio. Et c'est toujours hyper enthousiasmant parce que les élèves sont absolument passionnés. Hein. Ça marche très bien dans les collèges et les lycées.
Oui, si je peux me permettre de rebondir, ouais, et surtout que j'ai croisé pas mal d'enseignants qui aujourd'hui demandent aux élèves de lire, mais qu'il n'y a plus cette injonction à lire sur papier. Vous pouvez aussi aller à la bibliothèque, il est en audio. Moi, l'important, c'est que vous l'ayez lu, et donc il y a une partie des élèves qui préfèrent l'écouter.
Christophe, on passe du collège au lycée à Sciences Po. Vous avez la charge d'un cours à Sciences Po, un cours consacré à l'audio dans sa globalité. Vous me corrigez si je me trompe, évidemment, avec une grosse partie qui est consacrée au livre audio. Qu'est-ce qui s'y enseigne dans ce cours, et quels sont les retours des étudiantes et des étudiants?
L'idée, alors, Déjà, ce cours, il a une histoire un peu particulière parce que j'étais très étonné qu'il n'y ait pas déjà un cours autour de l'audio ou du sonore. Alors, il pouvait y avoir des cours sur la musique, et évidemment, sur certains chants, mais l'idée d'avoir un panorama du monde du son, et je suis par ailleurs administrateur de la Semaine du son de l'UNESCO, qui est un programme qui a la même logique, qui tente de fédérer un peu tous ces univers du sonore. On a repris, en tout cas j'ai repris la même structure, c'est-à-dire que c'est un cours où on développe et on déploie tout cet écosystème du son. Ça part du livre audio parce que je pense que c'est la meilleure porte d'entrée, mais on intègre le podcast, la radio, le cinéma, puisqu'un film, en fonction des cas, ça peut être à peu près 20% de contenu sonore. On remet d'ailleurs la Semaine du son de l'UNESCO un prix à Cannes, qui est le prix de la meilleure création sonore. On travaille avec la FEMIS par exemple, le jeu vidéo. En fait, presque tous les secteurs d'activité du champ culturel ont ou possèdent à un moment ou à un autre, le spectacle vivant évidemment, une dimension sonore. Et puis comme on est à Sciences Po Paris, on a aussi la dimension politique, avec une partie du cours qui est consacrée à la question du discours politique, de l'éloquence, avec le développement de l'oralité aujourd'hui, avec les concours d'éloquence un peu partout. Et donc l'idée, c'était de connecter ces univers, pas uniquement le digital ou la dimension téléchargeable, mais aussi la voix. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais ça c'est quand même très important, les livres que nous écoutons, les livres audio, ont été pendant très longtemps au Moyen-Âge des livres lus, parce que là, on a intériorisé notre lecture, mais ce que au Moyen-Âge, on appelait les voix des pages, c'était la lecture à voix haute. Donc on revient à quelque chose qui finalement est assez archaïque aussi, parce que la voix, c'est aussi ce qui nous singularise, vous le savez, tout le monde ici a une voix différente sur cette terre, ce sont nos empreintes digitales vocales, et voilà, ce cours, il a un peu cette ambition, c'est-à-dire de partir de cette dimension des origines du sonore, en allant jusqu'aux formes les plus contemporaines et les plus modernes.
Mais je reviens sur l'idée des autrices et des auteurs qui lisent, qui disent leurs textes. Je relis ça aussi au fait, et peut-être que je me trompe, mais justement à une ouverture aussi du champ littéraire avec beaucoup d'autrices et d'auteurs de théâtre qui écrivent désormais des romans. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de lectures musicales ou dessinées qu'on en avait il y a quelques temps et qu'il y a vraiment un goût pour ça, et que même dans l'écriture, alors c'était déjà le cas évidemment, mais j'ai l'impression de lire de plus en plus de textes dans lesquels l'oralité est importante. Je sais pas, c'est peut-être juste une impression. Mais...
Nous, ce qu'on voit, mais on se demande toujours si c'est notre prisme qui fait qu'on a l'impression que ça se développe, mais la maison de la poésie, enfin toutes les lectures qui sont faites dans ces endroits-là, effectivement, met l'oralité au centre de la discussion littéraire. Il y a le Festival Vox aussi qui est consacré à des lectures à voix haute en littérature. Donc il y a de plus en plus de festivals effectivement qui sont autour de ce sujet. J'ai l'impression. Après, il y en a peut-être toujours eu, hein, mais là en tout cas, c'est foisonnant.
On parlait tout à l'heure du Grand Prix du livre audio. Il est indissociable d'une association qui s'appelle La Plume de Pan, qui est en région Grand Est, à Strasbourg, cette année capitale mondiale du livre, UNESCO. Et il y a un festival du livre audio et du podcast qui est organisé aussi, avec une dimension ouvertement internationale. Et puis, Strasbourg capitale mondiale du livre UNESCO, il faut en parler parce que c'est cette année, c'est jusqu'en avril 2025. Après, Strasbourg va prendre la tête de tout le réseau des capitales mondiales du livre dans le monde. Mais c'est un moment très important pour le livre. Et moi, j'accompagne Strasbourg. Je suis à la fois parrain de la manifestation avec Nancy Houston, Daniela Ferrière, Laurent Godet. Laurent Godet, d'ailleurs, avec des versions en audio aussi extrêmement intéressantes, qui ont été, qui ont un lien évidemment avec certaines productions qui ont été montées au TNS, au Théâtre National de Strasbourg. Là, par exemple, la question a été posée de se dire, voilà, est-ce qu'on n'en profite pas avec cette année dédiée au livre, à la lecture, à la littérature, ça n'arrivera pas si souvent que ça, est-ce qu'on n'en profite pas pour donner une dimension encore plus forte à l'oralité ? Et donc là, on a monté il y a quelques semaines au Théâtre National de Strasbourg des lectures performées pour les Nuits de la Lecture. Et en fait, on le voit, le texte explose. Et vous l'avez très bien décrit, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a une génération aussi d'auteurs pour qui l'oralité, le monologue intérieur, le fait de lâcher les brides aussi, ça induit des choses qui ne sont pas nouvelles, parce que j'évoque j'évoquais tout à l'heure le nouveau roman qui est plein de flux de conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui, je le vois avec mes étudiants, qui a envie de ces expérimentations, du sonore.
Et qui a peut-être envie justement d'un certain décloisonnement et de se dire comment est-ce qu'on va travailler avec d'autres artistes, que ce soit des artistes sonores, mais aussi des plasticiens, mais aussi des dessinateurs et dessinatrices. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a cette envie-là de faire ensemble.
Complètement. Là se tenait le salon de Montrouge, qui est un salon assez important dans le monde de l'art, l'art contemporain. La thématique des arts sonores y était très présente, avec de plus en plus de gens qui sont à la croisée. Alors, c'est pas du livre audio, mais on n'en est pas loin parfois. C'est du texte dit, proféré, performé, et on le voit, la musique est là aussi, la danse peut accompagner le dispositif. Faut pas oublier qu'il y a des artistes plasticiens qui ont développé des formes comme ça, où le sonore était très présent. Je pense à Xavier Veillan, qui a représenté la France à la Biennale de Venise d'art contemporain il y a quelques années, qui avait créé un Merzbau, c'est-à-dire un lieu complètement incroyable dédié au sonore, en référence à une grande figure du son qui est Kurt Schwitters. Et en fait, on voit bien que tout ça se croise, s'hybride. C'est ça qui est fascinant en ce moment. On a une grande hybridation du sonore.
Anthony, ça vous fait envie d'entendre ça ?
Oui, ça me rappelle je me rappelle une grande émotion dans le cadre du Festival Effraction 2023, de la lecture que Charles Berling avait faite de « Attaquer la Terre et le Soleil » de Mathieu Bellezzi. Moi, j'étais déjà un peu groupie parce que j'avais lu le roman très tôt et j'avais la chance de croiser Mathieu Bellezzi dans les coulisses. Et je me rappelle de vraiment c'est un texte très fort, il avait fait une interprétation très forte, mais pour le coup, c'était ton sur ton, c'était parfait. Enfin, je pas de compétence pour le dire, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment convaincu. Et je me rappelle de ce moment-là. Et je me rappelle de m'être dit de manière très égoïste, en mode, mais on doit passer juste après. Il y a un moment, on était avec Pierre Coutel, on était très contents de présenter Les Enfants Dormis, mais on s'est dit que là, il nous manquait un comédien, quoi, pour le coup. Mais c'est vrai que dans le cadre des festivals, la lecture performative prend sa place, alors que paradoxalement, elle est un événement fondamental du festival, mais elle est encore vue de manière peut-être de moins en moins, mais un peu comme une petite chapelle à part dans l'audio lecture. Juste pour une anecdote, je me rappelle que j'ai rencontré certains de mes lecteurs, mais j'ai rencontré aussi certains de mes audio lecteurs. Et je me rappelle d'une fois d'attendre la sortie des écoles de ma fille, et une maman vient de me voir et me dit j'ai beaucoup aimé votre livre, donc j'étais super content. Et je lui dis, vous l'avez acheté en grand format, un petit format? Elle me dit, non, moi je l'ai écouté, je l'écoute dans la voiture. Et en tant qu'auteur, je me rappelle d'avoir une petite blessure narcissique, de me dire, mais
elle faire autre chose en même temps.
Oui, voilà, elle est dans les embouteillages, elle m'écoute, elle tourne à gauche. Enfin, je veux dire. Et en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Et sans doute qu'il y en a qui écoutent en faisant la cuisine, et pourquoi pas, vous voyez ce que je veux dire, mais qu'il faut accepter, c'est quelque chose aussi d'accepter que on m'avait dit quand j'ai publié mon premier roman, tu verras, chaque lecteur s'approprie ton livre et c'est plus ton livre, ils ont pas lu la même chose que toi, tu penses avoir mis dedans et tout, et avec l'audio lecteur, c'est la même chose, et c'est très très... il y a une grande curiosité à cet endroit-là, de comment est-ce qu'ils écoutent le texte, dans quel moment. Et c'est quand même ça aussi la magie de l'audiolecture, c'est de pouvoir se consacrer à la lecture dans des moments où typiquement c'était impossible.
Laure, c'est ce qu'on disait, c'est fini le temps des routiers intello, mais est-ce qu'on sait quand est-ce que
audiolecteurs et lectrices écoutent ? Oui, il y a des études très précises sur le sujet. Moi, je trouve que la voiture, c'est un des meilleurs endroits pour écouter, en fait, et pour écouter à plusieurs. Le petit Nicolas lu par Benoît Poulvorde en voiture, ça vaut son pesant de cacahuètes avec les enfants. Mais effectivement, la voiture, moi, je trouve que c'est très bien. Bon, moi, j'ai raté quelques sorties d'autoroute, hein, ça m'est arrivé. Mais c'est un bon lieu parce qu'en fait, c'est quand même une bulle. Même s'il y a les embouteillages et tout, c'est quand même une bulle. Et donc, nous, ce dont on s'est aperçu dans les dernières études qu'on a faites, c'est qu'en fait, les gens écoutent aussi des livres audio dans leur canapé, sans rien faire, pour se reposer des écrans. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Ils en peuvent tellement plus d'avoir des trucs sous les yeux toute la journée qu'en fait, le fait d'avoir juste quelque chose qui ne sollicite que l'oreille, c'est un moment de répit et de divertissement positif. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on pensait tous que tout le monde écoutait en faisant du sport. Et la cuisine, moi, c'est difficile la cuisine parce qu'il y a trop de bruit parasite. Le mixeur, le truc. Moi, j'ai tout essayé. Le jardinage, c'est vachement bien, mais il faut un casque. Donc, il faut des activités qui soient pas bruyantes, en fait. Mais en tout cas, c'est vraiment très compatible avec... même la couture, c'est compliqué quand la machine à coudre. J'ai tout essayé. Mais la grande nouveauté, moi, j'imaginais pas des gens assis dans leur canapé à écouter un livre audio. Ben, ça existe et c'est des usages qui sont très... que les gens revendiquent. Et ils s'endorment pas forcément, je tiens à le préciser.
On va vous demander dans quelques instants si vous êtes endormi en écoutant un livre audio et lequel. Peut-être un mot des perspectives. Comment est-ce que vous voyez l'évolution, puisque vous disiez, on parlait des pourcentages de l'édition. Donc, j'imagine que vous voyez que le livre audio va prendre de plus en plus de place. Mais si on essayait d'être un tout petit peu plus précis, comment est-ce que vous voyez l'évolution du livre audio ces prochaines années?
Avec l'augmentation du potentiel de lecteurs, ce qui va être absolument génial, c'est qu'on va pouvoir faire plus de livres, moins grand public. Enfin, moi, c'est mon grand fantasme, puisque aujourd'hui, le livre audio en production, c'est quand même plus cher à faire qu'un livre papier. Et donc, on a des critères de choix qui sont assez drastiques du point de vue du potentiel commercial, sauf quand on a des grands coups de cœur littéraires, comme sur ce livre.
Je fais une parenthèse, mais une réussite en livre audio, c'est à partir de combien d'audiolectrices ou audiolecteurs?
Je dirais 2000. Hein, on est content à 2000, parce que mon équipe est là, donc je les regarde. On est content à 2000 exemplaires. Mais même 1000, on est content. En fait, quand on a remboursé nos frais d'enregistrement, on est content. Parce qu'après, tout va bien. Après, c'est juste le livre qui va rencontrer ses lecteurs. Mais c'est vrai que dans nos anticipations, on est obligé d'avoir... Et comme le ratio jusqu'à présent, c'était qu'on vendait un livre audio pour 100 livres grand format, c'était assez drastique. Ça
la
voulait dire...
La petite pépite qui a vendu à 500 exemplaires, elle n'aura pas son livre audio tout de suite.
C'était tellement frustrant. Et donc, voilà, moi, ce que j'espère, c'est qu'avec l'augmentation du marché, et puis surtout, cette granularité que vont amener les offres créditants, et que les gens vont pouvoir aller vers des auteurs niches et des choses comme ça, je me dis qu'on va pouvoir développer des sous-catégories et suivre des auteurs qu'on appelle en développement et les accompagner en audio beaucoup plus tôt qu'on ne le faisait avant, où il fallait un prix, où il fallait des ventes. C'est ça mon espoir et on y croit beaucoup. On essaye de développer des sous-collections. C'est intéressant là-dessus la vision qu'a Spotify, parce que c'est des anglo-saxons. Donc eux, ils nous demandent par exemple des catégories. Est-ce que vous avez des auteurs neurodivergents? Donc ça, c'est une notion que j'ai découverte. On a beaucoup d'auteurs neurodivergents, mais ils ne le revendiquent pas. En fait, c'est le problème. Et donc voilà, donc on peut descendre dans des niches beaucoup plus... beaucoup plus petite, et c'est un peu ça l'espoir. Et puis continuer à faire des genres très populaires aussi, puisque en fait le livre audio c'est populaire, puisque c'est accessible.
Christophe, sur l'évolution?
Oui, alors je pense qu'il y a ces taux de croissance déjà qui sont quand même assez spectaculaires, et que le monde de l'édition papier envie beaucoup au livre audio. Il y a cette dimension-là. Il y a aussi la partie qu'on évoquait au début quand on parlait d'éducation. Je pense qu'il y a un potentiel très important. On ne l'a pas cité, mais en classe de FLE, le français langue étrangère, le livre audio a un potentiel extrêmement important, parce qu'il permet de favoriser l'acquisition de la prononciation. Il est utilisé, et c'est un outil. J'ai évoqué la semaine du son de l'UNESCO. On a développé des semaines du son un peu partout, et notamment en Tunisie. Et en Tunisie, à la fois les alliances françaises, l'Institut français et d'autres structures utilisent ces supports. Donc à chaque fois, alors ce sont parfois des micro-marchés effectivement qui commencent à apparaître, parce que déjà le livre papier lui-même a besoin de se développer dans certains cas, mais et cher aussi. Il y a aussi cette dimension du prix, mais on a effectivement de nouveaux pays. On a des marché dit émergent dans des domaines très variés qui commencent à s'intéresser aussi au livre audio. Donc je pense que l'avenir est à l'ouverture de ce format, avec ces taux de croissance quand même très significatifs.
Oui, Laure ?
Non, je disais, bientôt on pourra faire des livres audio écrits pour l'audio.
C'est ce que j'allais poser comme question quand j'évoquais les adaptations des podcasts.
Ça, c'est mon grand fantasme. Et là-dessus, on travaille avec... La première réflexion, c'était de demander à des auteurs très connus d'écrire pour l'audio. Et puis après y avoir réfléchi, en fait, on s'est dit non, il vaut mieux aller vers des auteurs qui connaissent déjà l'oralité, et donc des auteurs de théâtre qui voudraient écrire pour le livre audio. Voilà,
donc mais en ayant l'idée d'avoir des formats plus courts que des romans ou avec carte blanche
carte par rapport, blanche enfin, là ouais. tout est possible, c'est l'auteur qui choisit sa forme. Non mais ça, ce serait le jour où on arrivera à ça, franchement on aura réussi quelque chose de magnifique, et qu'ils fassent les deux en fait, qu'ils écrivent pour le théâtre, qu'ils écrivent pour la littérature, et on y travaille.
Est-ce que vous avez les uns et les autres, comme on dit qu'on a un livre de chevet, un livre audio que vous avez soit déjà écouté plusieurs fois, soit vous vous dites je pourrais l'écouter à l'infini parce que j'aime cette voix peut-être, j'aime ce récit. Quand on évoquait ce que le fait d'avoir quelqu'un qui nous raconte quelque chose à l'oreille, ça évoque l'enfance. On sait bien que quand on est enfant, on réclame sans cesse les mêmes histoires. Est-ce que vous avez des livres audio de chevet?
Moi, j'ai une petite anecdote parce que j'évoquais la chronique dans le magazine Lire. On a fait un hors-série livre audio. Et à la fin, on s'est dit, voilà, il faut qu'il y ait une bibliothèque idéale des livres audio. En fait, ça a été terrible. Choisir. Hein, le choix, c'est la chose la plus terrible dans cette variété. Et alors, on les a un peu, alors pas classés, mais on en a sélectionné un certain nombre. Et un de ceux qui est arrivé assez vite, évidemment, mais c'est un peu le livre des livres, c'est La Recherche. Mais La Recherche en audio, c'est juste énorme. Mais dans deux situations très différentes et très intéressantes. La première, c'est plusieurs comédiens qui vont lire La Recherche et qui se partagent le travail. Donc ils sont, je ne sais plus, ils doivent être six, Guillaume Gallienne, André Dussolier, Lambert Wilson, en plus avec Robin Rinucci, qui nous avait accompagnés aussi en Tunisie. Chacun a son morceau de bravoure, enfin, c'est assez incroyable, les Cattleya, la mort de la grand-mère, enfin voilà, on revisite la cathédrale proustienne. Et puis il y a un autre cas, donc ça c'était chez un éditeur qui est Telem. Et il y a un autre cas, c'est celui qui a décidé tout seul de franchir, d'escalader l'Everest, c'est Daniel Mesguich, qui a décidé de lire, alors pas l'intégrale, mais une partie très significative de La Recherche chez Frémo. Et c'est intéressant de voir justement ce texte qui est quand même un panthéon, enfin un monument, qui est abordé à la fois par une cordée, qui tente l'exploit, parce que c'est quand même relativement difficile. Est-ce qu'on ira jusqu'au bout? C'est en termes d'heures, je ne sais plus combien ça fait d'heures, mais bon, imaginez, enfin, vous voyez déjà le papier et les volumes, mais là en audio c'est incroyable. Et dans les deux cas, c'est assez intéressant de voir cette dualité, mais en tout cas on a choisi de mettre La Recherche après d'autres choses évidemment qui ont pu nous séduire, parce qu'on avait fait aussi une sélection par genre. C'est vrai que la possibilité d'avoir des genres très variés fait que il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les oreilles.
Laure ?
Non, moi j'ai pas non plus de... En fait, j'aimerais bien, mais je peux pas. j'ai une espèce de rouleau compresseur qui fait que je peux pas en avoir. Mais c'est vrai que dans les livres qui gagnent à être, dont on a peur comme ça à l'écrit et qui gagnent à être écoutés, je regardais, il y a Les Rois Maudits quand même, 60 heures. Je vous le conseille, n'oubliez pas que c'est quand même ce livre qui a inspiré Game of Thrones, hein, donc c'est bien de le relire. 60 heures. Si vous avez peur de Virginie Despentes, Vernon Subutex, c'est 3 fois 11 heures, 33 heures, c'est pas mal aussi. Et puis, Le Seigneur des Anneaux, hein, 20 heures par tome. Donc ça vous fait, c'est pareil, 60 heures. Donc vous êtes parti, voilà. Et ce qui est très étonnant, c'est que Le Seigneur des Anneaux fait partie depuis le début, de nos meilleures ventes. Donc je pense qu'effectivement, les gens qui ont peur du Seigneur des Anneaux, l'aborder par l'audio, c'est une bonne technique. Et effectivement, oui, Proust, ça, il n'y a pas de sujet. Mais toujours, il vaut mieux écouter l'œuvre en intégrale que lire le profil d'une œuvre... pour préparer le bac français. Et donc les jeunes, là-dessus, moi je me souviens de mon fils qui avait lu, c'était Le Rouge et le Noir, lu par Michel Villermoz. Il ne l'aurait jamais lu à l'écrit et il a été absolument bouleversé dans une émotion incroyable. Et je pense que ça l'a complètement aidé à réaliser que la littérature classique n'était pas aussi horrible que ça semblait être. Donc, Non, non, les classiques en audio, ça vous le coup vraiment.
Anthony ?
Oui, bon, mon classique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est L'étranger par Michael Lansdale, mais pour parler de deux camarades, Paulina Panasenko pour Tenir sa langue, qui était paru à l'Olivier, et Maria Larrea pour Les gens de Bilbao, Ness où ils veulent, paru chez Grasset. Elles l'ont toutes les deux lu elles-mêmes, et c'est vrai que je pense que là, pour le coup, on est vraiment dans des cas, sans doute pas les seuls, mais elles ont une telle personnalité, leurs textes sont déjà des très beaux textes en tant que livre papier. Mais vraiment là, aussi bien pour Maria que pour Paulina, sur le travail sur la langue, sur l'accent, le fait qu'elles le lisent elles-mêmes et avec la personnalité qu'elles ont, et notamment dans leur manière de s'exprimer, montre vraiment aussi, c'est un bel exemple de ce que l'audio-lecture apporte en plus. Et voilà, en plus, il se trouve que j'ai beaucoup de sympathie pour elle, donc ça m'est d'autant plus simple.
On parlait de solliciter des autrices et auteurs de théâtre. Le texte de Maria Larrea était porté aussi au théâtre. Donc c'est intéressant, quand on parlait de porosité, c'est extrêmement stimulant, toute cette porosité entre différents arts qui en réalité communiquent et ou, qu'on a tendance à mettre dans des cases alors que ça, elle n'existe pas. Et vous, qu'est-ce que vous écoutez comme livre audio ?
Radio France.
Radio France, ouais.
Podcast.
Ah oui, c'est très bien, je suis là.
Il y avait Guillaume Gallienne qui faisait une émission avant. Ouais. Je ne sais pas s'il y a plus.
Par contre, en écoutant Radio France, je peux aussi lire ou à l'inverse, avoir lu et écouté, ça n'est pas la même chose. Je préfère lire d'abord et écouter après. Quand j'écoute avant, ça m'influence dans ma lecture.
Après, vous écoutez en entendant la voix et en étant... D'accord.
J'ai plus l'imaginaire qui fonctionne.
D'accord. Il y a un rapport moins intime, moins... Ok, ouais.
Alors, pour les questions, prenez le micro.
Alors, merci. Quand on est sur... Enfin, en tout cas, il y a des auteurs comme, qui, quand ils passent en poche, réécrivent une partie. C'est-à-dire qu'on est sur une... quasiment sur une autre édition où il y a des corrections. Est-ce que ça, c'est imaginable... Parce que vous avez dit que vous respectez le texte. Est-ce que ça, c'est imaginable dans l'audio de retravailler le texte de telle manière qu'il soit plus absorbable.
Ah oui, la question, ce serait d'adapter un texte pour sa version audio.
Parce que c'est ce qui en tout cas, le livre de poche, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas pour les autres, peut-être.
C'est souvent des actualisations plus que des
vraies modifications. Oui, mais quelquefois, il y a des auteurs. Ouais. Il y a des auteurs qui rajoutent, comme Grégoire Bouillet, il rajoute...
Oui, mais Grégoire
Bouillet, ouais, oui,
c'est Grégoire Bouillet.
Mais ce que,
non,
ce que
nous, on n'adapte pas. En fait, on est vraiment d'une fidélité absolue. Déjà, parce qu'on a, si ce n'est pas l'auteur qui lit lui-même son texte, on n'a pas le droit de le modifier. Quand l'auteur lit, on l'autorise à faire tout ce qu'il veut. Il peut modifier son propre texte dans la version audio, ça, il est totalement libre. Mais non, en général, on est très rigoureux. Et si, par exemple, il y avait une version poche qui ressortait, alors que nous, on a déjà fait la version audio, ça voudrait dire reprendre un comédien en studio. Donc, c'est des gros investissements. C'est moins facile que le texte. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut enregistrer que le BAT, ce qui nous pose des gros problèmes, donc la version qui va être imprimée, ce qui nous pose des gros problèmes de timing, puisqu'on essaye de sortir en même temps que le grand format. Et donc, on a le texte final très tard, parce qu'évidemment, on est tout, c'est une course. Hein. Et donc, on a un temps assez restreint pour enregistrer, monter et sortir le livre audio. Et c'est toujours des batailles de logistique et d'enregistrement. Mais c'est vrai que sur ce que vous disiez sur la prononciation et l'oralité, un des gros travaux des éditeurs de livres audio, dont ceux qui préparent, c'est de préparer les questions des prononciations. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des débats sans fin. Moi, je me souviens de Martha Argerich. J'avais pas entendu d'émissions de radio où on parlait de Martha Argerich. Je ne savais pas comment prononcer son nom. Donc, on a dû faire des vérifications, écouter France Inter pendant l'enregistrement. Enfin, je vous donne aussi cet exemple, mais tous les polars suédois... N'imaginez pas les prises de tête sur la prononciation des... Voilà, donc en fait, on a des questions techniques qui ne se posent pas du tout en livre papier.
Et ce sont les éditeurs et éditrices de livres audio qui font la direction d'acteurs aussi ?
Alors, pas toujours. En fait, on travaille, nous, avec des studios qui ont eux-mêmes leurs ingénieurs du son et leurs directeurs artistiques. Mais moi, j'ai très souvent fait des directions artistiques à côté d'un ingé son. Donc, ça dépend en fait de la configuration, du temps qu'on a. Mais quand, c'est toujours très important de retourner régulièrement en studio pour faire cette espèce de plongée. Je me souviens d'avoir fait yoga d'Emmanuel Carrère avec Thibaut de Montalembert, mais c'était tellement un bonheur de se plonger pendant 6-7 matinées, toute une semaine dédiée à un texte. C'est absolument c'est magnifique.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
En termes de commercialisation, est-ce que c'est dans les librairies indépendantes ou c'est sur Amazon ou
Alors, on continue, nous, à faire des CD qui sont présents, du coup, dans toutes les librairies indépendantes ou pas indépendantes. Donc, en librairie, vous pouvez acheter les CD et vous pouvez aussi télécharger sur les sites de ces librairies des livres audio à l'unité. Donc là, on est vraiment dans tout le réseau de la librairie indépendante, les ventes de livres numériques, c'est assez proche des ventes des e-books. Après, si vous êtes sur les abonnements ou les choses comme ça, Audible, c'est donc la plateforme qui vend des abonnements mensuels dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est une filiale d'Amazon. Spotify, vous connaissez Spotify. Et sinon, vous avez d'autres plateformes qui font des offres d'abonnement. Il y a une plateforme qui s'appelle Nextory. Vous avez un peu de tout. Mais la plateforme qui domine d'un point de vue commercial, c'est Audible, hein, aujourd'hui. Donc c'est celle qui est une filiale d'Amazon.
Ça va un peu à l'encontre quand même pour les. C'est pas très bon pour les librairies indépendantes tout ça.
Les librairies indépendantes n'ont pas trouvé encore la manière de vendre des livres audio numériques dans la librairie. C'est-à-dire que nous on travaille avec une société qui s'appelle Prose et qui propose des abonnements au sein des librairies indépendantes pour le livre audio. Donc c'est un abonnement de un livre par mois. Mais le déploiement de ces offres est encore modeste pour le moment. Mais on les accompagne. Et Audiolib est une des dernières maisons à continuer à vendre des CD pour que les gens puissent acheter des livres audio en librairie s'ils ont toujours des lecteurs chez eux. Ce qui est de moins en moins courant. Réfléchissez chez vous.
Justement, je me demandais depuis le début la question du prix de revient. Si vous faites un CD, ça revient plus cher de toute façon que si vous le mettez à la disposition numérique des gens qui sont en abonnement.
Pas beaucoup plus cher. Ce qui coûte cher, c'est l'enregistrement. Ouais. C'est le temps qu'on passe en studio, la rémunération des comédiens, le montage, le formatage. Donc c'est ça qui coûte cher. Après, le CD en lui-même, ça coûte pas très cher à presser. Donc l'économie sur CD versus numérique, vente CD versus vente numérique, elle n'est pas significative. Non, ce qui coûte cher, c'est le temps passé en studio.
D'accord, mais donc les comédiens, quand vous allez les choisir, il va falloir négocier les tarifs. Ça veut dire, vous, pour quelque chose dont vous pensez qu'il va très bien se vendre, vous pouvez vous offrir, si j'ose dire, un grand acteur, des choses comme ça?
En fait, ça ne se joue pas du tout comme ça, parce qu'on s'est aperçu d'une chose très simple, c'est que la notoriété du comédien n'a aucun effet sur le succès commercial du livre audio. Ce qui fait le succès du livre, c'est l'auteur et le bouquin. Donc ça rend très très modeste. Donc effectivement, si on se retrouve dans la situation d'avoir un livre qui a un gros potentiel commercial et qu'il se trouve qu'on a un comédien hyper connu qui rêve de lire ce livre, on va se faire plaisir et on va travailler avec lui dans des conditions qui sont acceptables pour lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le livre audio aujourd'hui est hors marché pour les comédiens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout la même manière de négocier quand ils font un livre audio que quand ils font un doublage de film ou quand ils jouent dans un film. Ça reste encore un truc un peu à part et c'est une chance qu'on a pour l'instant. C'est qu'ils ne négocient pas du tout comme s'ils négociaient un cachet classique.
D'accord, parce que vous avez parlé de Robin Renucci, des gens comme ça, on peut supposer qu'avec leur notoriété...
Ah non, Robin Renucci, c'est quelqu'un d'extrêmement raisonnable, qui adore le livre audio, et non, il est tout à fait accessible, il adore... Ah oui, mais on l'adore aussi.
D'accord, et sinon, est-ce que vous faites les accents dans les dialogues, dans le texte, du Pagnol?
Ah oui, est-ce qu'on fait l'accent du Sud pour des gens qui... Ouais, ça, c'est toujours un sujet. Alors, on le fait un petit peu quand c'est nécessaire, mais jamais très appuyé. Parce que la glossophobie n'est jamais loin. C'est-à-dire qu'il faut faire très, très attention à ça, ne pas surjouer un accent pour ne pas le ridiculiser. Donc, on va le jouer quand c'est nécessaire. Si quelqu'un, par exemple, si un des personnages, on sait qu'il parle pas dans sa langue maternelle et qu'il a un accent allemand ou anglais, on va le faire comme ça.
Donc vous n'allez pas chercher des équivalents de Rému, tout ça, pour enregistrer du Pagnol ou...
Alors, Pagnol, c'était génial. Parce qu'on a eu le petit-fils de Fernandel qui a enregistré Pagnol. Tout ça organisé avec le petit-fils de Pagnol, quand même. Donc là, c'était super. Et lui, il a fait un accent léger. Hein, il l'a pas du tout accentué. Et il a lu tous les Pagnols pour nous. C'était magnifique. Mais c'était une chance. Et puis, c'était une rencontre. Les deux petits-fils qui se retrouvent. Et moi, je me souviens de la chef de M. Seguin, lu par Fernandel quand j'étais petite. L'accent était hyper fort. Donc aujourd'hui, l'accent est là, mais il est moins fort. Et on fait ascension, par exemple, je ne sais pas si un truc se passait à Marseille, dans les banlieues de Marseille, on n'accentuera jamais l'accent non plus. Parce que là, pour le coup, c'est aller trop loin dans l'interprétation et je trouve que ça casse l'imagination. Non, c'est là où c'est hyper subtil comme choix.
Sinon, je voulais demander à l'écrivain, vous étiez prof, évidemment, de français, je suppose, pour des quatrièmes, troisièmes, à peu près.
J'enseignais en lycée professionnel, oui.
Donc, plus que la troisième ou
Oui, de la seconde à la terminale professionnelle.
D'accord, merci.
Vous parliez tout à l'heure, Diane, bonsoir, pardon, des neurosciences. Est-ce qu'on sait si un livre entendu se mémorise plus facilement qu'un livre lu? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le travail mémoriel ou pas?
Oui, alors il y a eu des études justement qui ont été utilisées pour l'enseignement du FLE et puis pour voir si le livre audio pouvait être un vecteur d'apprentissage. Effectivement, alors bon, elles sont peut-être pas toujours d'une grande scientificité, hein, je pense à Wested par exemple, ce genre de choses. Mais bon, il y a des chiffres qui valent ce qu'on peut en penser. En tout cas, c'est assez. Ça augmenterait effectivement de façon significative la mémorisation. Ça permettrait de favoriser aussi l'acquisition de la prononciation. En tout cas, pour le livre audio, ça représente une vraie opportunité de développement. Mais il est clair que les études existantes sont quand même d'une scientificité limitée. Voilà.
Bonsoir, merci beaucoup, c'est passionnant. J'ai juste une petite question sur le fait que j'ai remarqué en effet, étant malheureusement abonné à Spotify, parce que bon, moi j'aime les artistes et donc tout ça c'est quand même dramatique, mais tout le monde est tranquille dans sa petite conscience parce qu'on paye notre abonnement mensuel à Spotify, mais c'est quand même très grave ce qui se passe. J'ai remarqué donc qu'ils ont lancé il y a quelques mois cet accès aux livres audio. Donc ça venait de sortir, c'est vraiment récent, c'est il y a 2-3 mois. Hein, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, ou 6 ou 4, enfin c'est récent. Et là, je remarquais que les droits, en effet, c'était copyright Gallimard ou copyright dans l'adaptation. Donc, je me suis dit, ah ben, ça y est, les maisons d'édition ont leur propre studio ou leur propre manière d'envisager la mise en audio des contenus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus?
Ben oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Gallimard a sa collection de livres audio qui s'appelle Écouter Lire, donc c'est pour ça que vous avez vu le copyright Gallimard et le P de production Gallimard Écouter Lire, achète à sa propre maison d'édition qui s'appelle Audiolib. Donc, et toutes ces maisons-là ont négocié au moment où Spotify s'est lancé, a lancé son offre. Donc je vous rassure, l'utilisateur ne paye pas plus, mais les éditeurs sont payés, je peux vous le dire. Un an de négociation. Donc oui, ça c'est un investissement en fait pour Spotify. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent que pour l'instant, ils n'augmentent pas le prix de l'abonnement, mais que ça va leur faire venir plus d'abonnés premium, qui vont trouver du coup un intérêt plus grand à payer l'abonnement premium plutôt que d'avoir le truc gratuit avec la pub, là, puisque c'est ça la différence. Hein. Payer 12 euros pour ne pas avoir de pub. Et donc, pour eux, aujourd'hui, c'est un investissement. C'est-à-dire que c'est pas du tout compensé par des rentrées supérieures d'argent, puisqu'ils n'ont pas fait évoluer le prix de leur abonnement avec cette offre de livres audio. Et pourtant, ils payent les éditeurs qui payent les auteurs. Donc là-dessus, la chaîne de rémunération, elle est hyper clean. Hein. Vous pouvez être rassurés là-dessus.
Merci. Je me suis dit, ça se... Ça se... c'est en train de se fabriquer différemment. C'est en train de s'orchestrer un petit peu différemment. Le fait que les maisons d'édition... et je me demandais s'ils avaient leur propre...
Ça fait 20 ans qu'ils ont leur propre maison
studio.
D'édition. Ouais.
À leur propre studio. Enfin, ils font appel à...
Ils n'ont pas des studios au sens où ils ne possèdent pas les lieux d'enregistrement. Mais c'est eux qui sont les producteurs des enregistrements. C'est-à-dire que c'est eux qui les financent, comme en musique. En musique, Universal Music, ils n'ont pas leur propre studio. Ils vont dans les studios de la scène, ils vont à droite, à gauche, mais c'est eux qui vont financer l'enregistrement. Donc là, c'est exactement la même chose.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup.
Mais c'est important parce qu'il faut rappeler que la chaîne de droit, elle est vraiment respectée et c'est très important pour les auteurs.
Il y avait une autre
question, peux en témoigner ou pas? Tu as touché des droits sur ton...
Il faut en regarder.
Mais on n'est pas dans le même... Alors, pour vous rassurer, le livre audio n'est pas dans le même... on n'est pas dans un système d'illimité. Le problème que vous évoquez sur la rémunération des auteurs-compositeurs, c'est le fait qu'on peut écouter de la musique sans limite d'horaire dans ces offres-là. Alors que nous, les gens sont limités à 12 heures. Donc on a des calculs très précis sur la manière dont on est rémunéré. Donc vraiment, nous, c'était vraiment notre sujet. C'est on veut pas être dans le système de l'illimité.
Donc, deux questions. Par rapport à l'audio, est-ce que vous... Imaginez faire des écoutes collectives sous casque. Je pense à Sonorium, que vous connaissez peut-être, qui fait des écoutes d'enregistrements musicaux collectifs. Alors là, c'est avec des grandes enceintes où il y a plusieurs publics. Enfin, il y a un public et puis le musicien ou un critique musical qui vient. Là, il pourrait y avoir la même chose sur... bien sûr, pas pendant 20 heures, mais qu'il pourrait y avoir quelque chose... Moi, en tout cas, ça me plairait bien. Et la question à M. Passeron, est-ce que de vous avoir entendu en audio, ça peut vous conduire dans un prochain roman ou dans un autre roman, de l'associer avec un enregistrement qui n'est pas forcément le texte, mais autre chose. Je pense par exemple à Damasio avec les furtifs, d'associer les deux, c'est-à-dire l'écrit et le son, qui donne une autre amplitude au roman. Voilà.
C'est la question, justement, moi j'ai été en tant qu'enseignant aussi, j'étais un grand consommateur des émissions du feuilleton de France Culture, par exemple, où il y avait vraiment une atmosphère sonore, un environnement sonore qui accompagnait la lecture, qui participait de l'immersion, qui en l'occurrence pour mes élèves favorisait leur intérêt. Et en l'occurrence, après, en tout cas, moi... Tel que je le perçois, la magie de l'écriture, c'est de laisser faire ce travail au lecteur. C'est-à-dire qu'il va se projeter lui-même dans un environnement. Et d'ailleurs, j'ai horreur quand mon éditeur ou mon éditrice me dit cette phrase. Ah, on est en Italie, il doit bien y avoir des odeurs et des bruits. Donc finalement, à chaque fois qu'on est en Italie, on doit sentir la sauce tomate. En gros, c'est ça ce que parfois demandent les éditeurs. Et je trouve ça très... ce qui m'intéresse en tant qu'auteur, c'est ce que je ne vais pas dire et que le lecteur va reconstruire lui-même artificiellement. Si je lui dis en Provence, c'est pas la peine que je dise que les cigales chantent. Si c'est sa référence de la Provence, il les entendra. Et s'il trouve ça surfait, il les entendra pas. Et c'est un peu le risque. C'est à la fois ce qui est passionnant dans l'audiolecture, c'est qu'on peut amener un univers sonore et en même temps que ça aussi ses limites parce que l'audiolecteur, comme le lecteur, a besoin de faire une partie du travail lui-même. Et cet ajustement-là, il est très particulier et je serais très maladroit pour trouver une réponse. Je pense que ça dépend vraiment de chaque audiolecteur.
Je suis d'accord. Et nous, on fait d'une contrainte financière un choix éditorial. C'est-à-dire que c'est tellement cher de faire du sound design...
qu'on est le texte, rien que le texte et le comédien, c'est toujours...
Donc on fait des illustrations musicales, effectivement, de temps en temps, mais là, il y en avait d'ailleurs dans ce livre-là, et c'était très bien, parce que c'est très léger. Donc on les intègre de temps en temps, mais on ne fait pas du gros sound design avec du gros bruitage, parce qu'on tout simplement, on n'a pas les moyens. Et moi, j'étais allée dans le studio de Radio France, leur studio de bruitage. Mais je pleurais de jalousie, quoi. C'était tellement extraordinaire, ce qu'ils ont. Voilà, nous, on ne peut pas. On n'a pas les moyens.
Et sur les écoutes collectives, pourquoi pas nuit. Il y a bien des nuits Seigneur des Anneaux.
Les bibliothèques font ça.
Vous faites ici ?
Alors, pas encore ici, mais je crois dans les fractions. Vendredi prochain, on a des lectures électriques dans l'espace musique. Ici.
Est-ce qu'il y a une dernière question ?
Pardon. Moi, je lis trois lignes de Pagnol. On les entend, les cigales. On les voit, les oliviers. On y est, quoi. Lui, c'est un génie. Hein. Et donc, ça serait vraiment dommage d'en rajouter, quoi.
Merci beaucoup.
Merci infiniment
à tous les trois. Merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Et très bon festival qui démarre mercredi.
Voilà. Donc, je ne vous dis pas à bientôt, mais donc à mercredi, puisque demain nous sommes fermés et mercredi, Effraction commence à la bibliothèque et chez nos partenaires. Donc n'hésitez pas à revenir nous voir. Et pour écouter Thomas Piketty aussi, c'est disponible à la bibliothèque. Bonne soirée, merci.